Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Aujourd'hui, une émission très vite bureau. On va parler salaire, organisation du travail et formation. La crise sanitaire a-t-elle eu la peau de la guerre des talents chez les cadres? Rien n'est moins sûr et le salaire fait toujours office de variable d'ajustement. On va en parler avec Olivier Gélis, directeur de Robert Half France. On parlera ensuite organisation du travail. Il semblerait que la bonne dose de télétravail, ça soit 2 jours sur 5. Ça sera notre sujet avec la dernière étude Barco ClickShare. Et puis on va parler CPF. 40% des Français ne savent toujours pas ce qu'est un compte personnel de formation. Ça sera notre sujet en dernière partie d'émission. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Olivier Gélis, directeur de Robert Half France. Bonjour.
Bonjour.
Robert Half, c'est un cabinet de chasseurs de tête. Vous recrutez des cadres pour la comptabilité, l'assistanat, la finance, le juridique, les ressources humaines et les technologies. Vous recrutez des cadres, vous voyez bien le marché, comment il évolue au quotidien. Est-ce que la crise sanitaire a complètement changé la guerre des talents ?
La guerre des talents, oui, bien sûr, elle l'a changé, complètement changé. Je ne sais pas ce qu'elle existait auparavant. Il faut être bien conscient de ça.
Auparavant, c'est Mars. Hein. C'est
pas, oui, oui, non, c'est... Okay. Ça n'a pas changé sur cette guerre des talents. Il y a toujours des talents rares qu'on n'arrive pas à trouver. En revanche, aujourd'hui, il y a quand même 2 mots-clés qu'il faut leur offrir depuis mars. C'est la flexibilité et le télétravail. Mais attention, j'ai bien dit l'un et l'autre. Le télétravail seul, ça ne suffira pas pour attirer les talents. Il faut aussi leur offrir la flexibilité des horaires.
Donc, il y a toujours une bataille. Donc, si j'étais bon dans une boîte, je vais toujours pouvoir bouger. Il faut toujours me convaincre de rester.
Complètement.
Le télétravail et la flexibilité, ouais, deviennent un argument d'attractivité. Ça veut dire quoi? On leur laisse complètement la main? On leur dit, dites-moi comment vous voulez vous organiser?
Alors, nous, chez Robert Half, par exemple, le mot d'ordre, c'est travailler du vous voulez. Bon, mais en réalité, ils ne font qu'une à deux journées en télétravail. Le reste du temps, ils viennent au bureau.
Travailler d'où vous voulez, mais au bureau quand même.
Je n'ai pas dit ça. Non, mais le fait de donner cette liberté, justement, plutôt que de dire que ce sera lundi ou vendredi ou ce sera une journée ou deux, il faut donner, ce sont des personnes adultes, il faut leur donner cette autonomie. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils sont ravis du télétravail, mais ils sont aussi ravis de se retrouver entre collègues et discuter des problématiques du moment. Mais la flexibilité est aussi importante. On ne peut plus dire que ça sera de 8h30 à 18h30 en télétravail. Ça n'aura pas de sens. Il faut leur dire que ça sera de 8h30 à 10h30 et le soir, vous faites un peu comme vous voulez. Voilà.
Donc le talent qui est conscient de son employabilité et de sa mobilité d'une entreprise à l'autre, il faut clairement lui laisser la main sur son organisation, lui faire confiance. Les entreprises en sont conscientes de ça ou il y a encore un travail à faire?
Il y a encore un peu de pédagogie, mais le travail, les progrès effectués depuis les 6 derniers mois sont absolument incroyables, même dans les méthodes de recrutement, notamment dans la chasse de tête. Auparavant, on nous disait faire une interview en remote avec Skype, c'était pas possible,
c'est horrible,
non, m'en parlez pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment passé dans les mœurs.
Et même les cadres de gamme, tout le monde se met à faire
même
un visio.
Même en exécutif, on a été surpris, on a fait des interviews et des recrutements sur Zoom ou Teams. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'après, la personne pourra rencontrer sa future entreprise, mais on l'a fait.
Même aujourd'hui où on peut potentiellement quand même se déplacer.
On peut encore se déplacer, mais ça fait un tel gain de temps. Mmh. C'est une telle flexibilité, on en parlait à l'instant, pour tout le monde. Ça permet d'avoir rencontré plus de candidats à travers toute la France. Attention, c'est un argument également. Aujourd'hui, les entreprises ne recrutent plus forcément sur leur adresse où se trouve l'entreprise. Donc ça offre aussi une compétition élargie au sein des mêmes candidats.
Et vous voyez les cadres vous dire ça, moi je bouge pas de Toulouse, de Nantes, parce qu'avant on disait vous voulez un poste de cadre exécutif, bon clairement il faut aller à Paris, hein, y a pas d'autre choix. Là vous voyez quelque chose changer.
En tout cas les entreprises changent, elles sont plus flexibles. Elles nous disent pas trouvez-moi un candidat qui se trouve dans les 10 km à la ronde de notre siège. Ça ouvre en fait le spectre des candidats qui sont potentiellement disponibles pour l'entreprise.
Voir l'international,
absolument. Ça peut être également, on pouvait être en concurrence aujourd'hui en tant que candidat, peut-être pas à l'international, le monde entier, mais sur l'Europe. C'est tout à fait possible. Vous savez, aujourd'hui, voyager 2-3 jours par semaine, c'est rien.
Mais les talents en ont conscience eux-mêmes qu'ils peuvent être en compétition avec n'importe qui dans le monde.
Bah oui, parce que c'est une simple réflexion sur soi-même, une simple réflexion sur la technologie. Et effectivement, cette réflexion, on pouvait ne pas la voir ou se dispenser de la voir il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas.
Robert Alf a fait une étude sur les salaires. Clairement, dans la guerre des talents, le salaire a toujours une place très importante. Ce qui veut dire que les entreprises ont-elles remercié tous ceux qui ont énormément travaillé pendant le confinement et le déconfinement avec des primes, avec des augmentations de salaire? Il y a eu un mouvement sur un certain nombre de cas.
Au global, les salaires restent les mêmes que l'année dernière. Ça, c'est l'étude des salaires. En revanche, on a vu ce qu'on appelle des jobs en or, où là, il peut y avoir vraiment une prime sur justement le travail effectué. Donc, il y a quelques jobs aujourd'hui où les entreprises sont obligées de faire un effort.
Alors, ces jobs en or, c'est quoi exactement? C'est
alors,
quel type
vous
de poste?
Avez, alors, par exemple, un job en or, bah, c'est tout ce qui concerne le contrôle de gestion, la trésorerie, pour des raisons évidentes. Vous avez, alors, il y a un job qui était un petit peu dans l'ombre, on n'en parlait plus tellement. C'est tout ce qui était au sein des RH, les DRH. Les DRH sont retrouvés propulsés grâce à la crise entre guillemets sur justement des nouvelles responsabilités de transformation digitale. Et là, les DRH, les gestionnaires de projets SIRH, donc tout ce qui est logiciel d'accompagnement, vous êtes en position de force. Là,
il y a une revalorisation de la fonction, notamment sur ceux qui ont fait les outils pour nous permettre de continuer à travailler, qui avant n'étaient pas non plus les stars des fonctions.
Non.
Se sont retrouvés sur
mais
le devant de la scène.
Mais surtout, les RH, c'était un peu le boulot de back-office, si vous voulez. C'était un peu administratif. Aujourd'hui, leur métier a radicalement changé et ils se sont trouvés les premiers acteurs, en fait, de la transformation digitale.
Mais donc, eux, prime, augmentation de salaire?
Ils peuvent, bien sûr, être en position de force pour négocier, notamment s'ils peuvent prouver la façon dont ils ont accompagné les dirigeants dans ces 6 derniers mois.
Il n'y a pas que le salaire, il y a eu des nouveaux avantages chez.
On en parlait, c'était toujours la flexibilité. Auparavant, vous demandiez de la flexibilité, vous demandiez du télétravail, l'entreprise disait peut-être, on va voir. Là, maintenant, c'est un inconditionnel, on ne peut plus s'en passer. Donc oui, ce sont des accompagnements. On parle aussi, ce qui se fait également, c'est donner des primes, parce que vous travaillez chez vous. Alors, on donne une prime à l'installation pour avoir un meilleur écran.
C'est pas obligatoire,
mais
ça devient un argument quand même.
Ça se fait, absolument. Ça se fait de plus en plus. Ça peut être un plus. Bon, c'est pas ça qui fait la différence, mais c'est quelque chose que l'on voit.
Certaines entreprises vous donnent accès à leur carte entreprise pour acheter du mobilier de bureau, vous aider, une bonne chaise, un ordi.
Ça peut être une solution, absolument. C'est un petit plus, mais encore une fois, c'est le mot de l'accès au télétravail sans condition. Auparavant, c'est, télétravail, mais bon, on va voir. Et puis, en fait, il n'y avait pas de télétravail. Aujourd'hui, c'est le télétravail sans condition et la flexibilité sans condition. C'est ça qui importe. C'est ça qui a changé, en fait.
Vous voyez, vous, chez Robert Alf, l'impact des soft skills, les compétences douces montées.
Ouais.
Vous avez fait pareil une étude. En premier, esprit créatif, agilité, communication, leadership, vision stratégique. Esprit créatif, c'est la soft skills numéro un. Pourtant, on s'attend surtout à des gens capables de faire place n'importe quel scénario.
Adaptabilité. Et puis, il y en a un que j'aime bien quand même aussi. C'est réagir face à l'inconnu, en fait. Savoir.
Ne pas paniquer,
réagir face à l'inconnu. Parce que l'inconnu, on l'a connu ces 6 derniers mois, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Et il va forcément arriver à nouveau. Donc, c'est ça. C'est cette créativité, peut-être, dans cet inconnu. Voilà. C'est prévoir ce qui ne peut pas être prévu.
On va faire le quiz RH auquel ont le droit tous les DRH. Vous n'êtes pas DRH, mais
non.
Vous avez quand même le droit au quiz. Vous me dites stop ou encore les reportings. On continue ou on arrête?
Alors, dans mon activité, surtout commerciale, oui.
Les continue. Horaires, on continue ou on arrête?
Non, on arrête, on donne à la flexibilité.
Les tests de personnalité?
Perso, je suis contre, mais mes clients sont pour. Donc, il y a un deal.
Et comme c'est toujours le client qui a raison. Les Zoom et les Teams, on continue?
Oui, bien sûr, à fond.
Le team building.
Le team building, il faut quand même, à travers justement ce télétravail, il faut retrouver un petit peu d'être entre soi, de se retrouver. Donc oui, je suis pour, absolument.
Les chief happiness officer.
Je déteste.
Les baby-foot.
Baby-foot, pourquoi pas, c'est un outil.
Ah, le baby-foot, ça va, mais pas le chief happiness officer.
Non, attention, c'est pas pareil.
LinkedIn, quelle est votre relation avec LinkedIn aujourd'hui?
Excellente avec LinkedIn. LinkedIn, c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle qui permet, en fait, pour les recruteurs, les professionnels du recrutement, de, si vous voulez, d'écarter toutes les fonctions administratives répétitives du type le tri des CV, la sélection des CV.
Et c'est donc ça nous aide, quoi. C'est un partenaire.
C'est un partenaire. On travaille main dans la main avec
vous. Vous-même, vous y êtes sur LinkedIn? Vous répondez
oui,
quand on vous envoie des mails?
J'essaye, ouais, bien sûr. Oui, bien sûr, non, je fais.
Ah, mais il faut tenir ses promesses, hein, parce qu'après, on voit les gens vont vous envoyer des mails.
Mail, absolument.
Merci beaucoup, Olivier Gélis, directeur de Robert Half France, d'avoir été avec nous. Et nous, on passe à notre partie Better Together.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Et on va essayer de faire mieux ensemble en parlant réorganisation du travail. On est avec Nabil Bougeri. Bonjour, vous êtes directeur grand compte Europe de l'Ouest chez Barco Clickshare. Et vous avez fait une étude fin septembre, interrogé les salariés pour savoir quelle était l'organisation du travail qu'ils voulaient. Bon, la folie 100% télétravail, c'est quand même loin derrière nous maintenant.
Tout à fait. Bonjour, merci de m'accueillir. Effectivement, la folie du télétravail est un peu derrière nous. Donc, dans les gens qu'on a interrogés, l'ensemble des gens, hein, près de 50%, ont réellement envie de retourner au travail dans leur entreprise, dans leur salle de réunion, parce qu'il y a une certaine lassitude. Hein, les raisons qu'on a évoquées avec eux, c'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup moins d'engagement, en fait, quand vous assistez à une réunion à distance qu'en face à face, et que la productivité, l'efficacité que vous avez est complètement différente. Donc les gens se sentent un peu frustrés.
Parce que là maintenant, ils ont envie de retourner, là vous les interrogez mi-septembre, on enregistre mi-octobre, donc on ne sait pas forcément à quelle sauce on va être mangé, mais on freine quand même sur le retour au bureau. Le gouvernement dit il faut des jours de télétravail, on met en place des équipes A, des équipes B, et maintenant on a envie d'aller au travail, mais on ne peut plus, on ne peut pas vraiment y aller. Vous, ce que vous avez remarqué dans votre étude, c'est que la bonne jauge, en gros, c'est 3 jours au bureau, 2 jours à la maison.
Tout à fait. C'est exactement ce qu'ont répondu les participants à cette enquête. C'est 3 jours au bureau, 2 jours à la maison. Et avec un besoin, par contre, de plus de flexibilité et de souplesse. Hein. Les gens ont envie de pouvoir télétravailler quand c'est possible. En revanche, quand ils sont au travail, ils ont besoin d'être dans des espaces de travail qui soient correctement repensés et avec les bons équipements. Donc la technologie, en fait, va avoir une part prépondérante, en fait, pour eux.
L'année dernière, quand on interrogeait les salariés sur la technologie, il y en avait une grande part qui disait « Moi, mon premier problème pour faire une réunion, c'est que je ne sais pas faire fonctionner le matériel. Clairement, c'est que je ne sais pas brancher ma caméra, je perds un temps fou, donc en fait, j'abandonne. »
Tout à fait.
On est forcé aujourd'hui d'apprendre à se servir de ces outils. Est-ce que vous, du coup, chez Barco, vous vous retrouvez à faire de l'explication de technologie avec vos clients, d'aller avec les salariés au quotidien?
Alors, nous, chez Barco, hein, on est leader mondial des outils de collaboration sans fil. Donc, on tient vraiment à l'expérience utilisateur. Et on tient à ce que cette expérience utilisateur soit la plus simple, la plus intuitive et la plus naturelle possible. Donc c'est pour ça qu'on a développé des solutions comme le ClickShare Conférence qui vont vraiment permettre aux salariés d'être dans un espace de travail, de pouvoir faire de la conférence sans fil, de la collaboration sans fil, dans un mode hybride.
Donc c'est le petit fil avec le petit boîtier que vous nous avez amené là.
Mais bon, c'est le bouton que je vous ai amené
pour
ici.
Ceux qui ne voient pas, donc c'est le carré avec le petit port USB que vous branchez. Et avec ça, vous faites quoi?
Tout à fait. Bah, en fait, vous branchez le bouton sur votre ordinateur portable, hein, qui est devenu vraiment un élément essentiel et incontournable aujourd'hui pour le salarié dans l'entreprise. Ça, c'est très clair aussi dans les résultats de notre enquête. Donc vous branchez ce bouton sur votre ordinateur et vous allez pouvoir lancer une conférence sans fil depuis n'importe quelle plateforme aujourd'hui. Alors on a vu que les grandes plateformes telles que Microsoft Teams ou Zoom étaient sorties gagnante, on va dire, de cette période compliquée. Mais on a une solution avec le ClickShare Conférence qui est totalement agnostique. Donc je branche mon bouton, je rentre dans la salle de réunion, je branche mon bouton sur mon ordinateur et avec un simple clic, je vais pouvoir démarrer une réunion et démarrer une collaboration sans fil. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle le travail hybride, puisqu'on va avoir des participants à la fois en présentiel dans la salle de réunion, mais aussi à distance, donc qui peuvent être chez eux en télétravail.
Donc c'est l'équipe A qui parle à l'équipe B, voilà. L'équipe A est en présentiel, l'équipe B est chez elle, mais ça ne change pas.
Exactement, ça ne change pas et surtout ça ne doit pas changer le niveau d'engagement des gens. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours d'expérience utilisateur, c'est que les gens qui sont à distance doivent avoir le même niveau d'engagement et la même expérience.
Mais comment c'est vraiment possible? Parce qu'il y a quand même la barrière de l'écran, on voit moins les émotions, ça nuit à la créativité. pensez vraiment qu'on peut y arriver? Vous allez pas me dire le contraire, mais franchement, je vous demande comment, quoi.
Alors, on peut y arriver, mais il faut avoir la bonne technologie dans les salles de réunion. Ça, c'est aussi ce qui est ressorti de cette enquête, hein. Les salles de vidéoconférence, aujourd'hui, sont les salles les plus utilisées en entreprise, hein. Si je donne quelques chiffres, on a environ 70% des gens qui déclarent utiliser une salle de vidéoconférence au moins une fois par semaine, et près de 30% des gens qui les utilisent quotidiennement. Donc c'est pas un petit paramètre. Donc l'investissement en fait numéro un qui est demandé par les salariés à leur employeur, c'est vraiment d'avoir des salles de vidéoconférence et qui soient équipées avec la meilleure technologie possible. Donc, pour répondre un petit peu...
Parce que la vidéoconférence fait partie désormais du travail. Dans votre étude, 75% des salariés déclarent préférer des réunions programmées plutôt qu'improvisées. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'on se parle en visio comme ça tout d'un coup. Non, on fait une réunion organisée, on va dans la salle de vidéoconférence, on se parle à un moment défini.
Exactement. Alors ça, c'est un point très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, la salle de réunion a vraiment toute son importance maintenant aujourd'hui et puis pour les années à venir. C'est-à-dire que les gens, on va dire au détriment peut-être des espaces semi-ouverts ou semi-fermés qu'on peut trouver dans les entreprises, les gens vraiment souhaitent plutôt être dans une salle de réunion ou une salle de vidéoconférence, plutôt de taille moyenne ou grande, hein, ce qui va permettre aussi de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. Et plutôt dans son entreprise, hein, pas tellement finalement dans des espaces de coworking ou dans des bureaux satellites, hein, ou annexes qui peuvent être mis à disposition.
Quand même un cadre précis. Mais ça veut dire que toute conversation téléphonique ne doit pas non plus se transformer en visioconférence. Il n'y a pas de la visioconférence toute la journée. C'est pas parce qu'on se parle que forcément il faut lancer sa vidéo.
Tout à fait, absolument.
Ça, c'était un peu le début du confinement, quoi, quand tout le monde se faisait coucou.
C'est ça, tout le monde se faisait coucou. Alors, c'est toujours encore un peu, hein, il y a encore une grande part de télétravail aujourd'hui. Mais vraiment, encore une fois, il y a ce souhait de retourner dans son entreprise, dans un cadre bien défini, et d'utiliser vraiment les technologies qui permettent vraiment, en un simple clic, hein, c'est ce qu'on propose avec le Click Share Conférence, de collaborer avec des gens qui peuvent être à distance. Et ça, c'est très, très important.
56% des employés préfèrent passer leur vidéoconférence depuis leur ordinateur portable plutôt que d'un autre appareil. Donc typiquement, c'est le téléphone portable. On veut s'installer, quoi.
On veut s'installer et on veut utiliser son ordinateur portable. Donc ça, aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Donc on va pas utiliser son smartphone ou une tablette ou même un équipement traditionnel de visioconférence qui peut être disponible dans la salle. On veut vraiment utiliser son ordinateur portable. Aujourd'hui, c'est incontournable. C'est effectivement un peu comme votre smartphone. Donc c'est très important en fait que les solutions qu'on peut amener soient au service de ce travail.
Mais c'est quand même un appel aux entreprises pour équiper correctement leurs salariés.
Exactement.
On a eu vraiment ce sujet
tout
pendant le confinement où les gens travaillaient avec leurs outils personnels, des ordinateurs portables du travail qui sont dans des versions franchement qu'on n'utiliserait même pas pour regarder Netflix chez soi. Il y a quand même un appel à dire équipez vos salariés.
Exactement, c'est exactement ça et c'est ce que les salariés demandent effectivement à leur employeur. C'est vraiment d'avoir un équipement correct dans une salle de réunion, dans une salle de conférence pour pouvoir finalement mettre en œuvre ce mode de travail hybride qui va devenir la nouvelle norme, hein, quelque part. Hein. C'est ce qu'on explique dans l'enquête. Hein.
Merci beaucoup Nabil Boujri d'avoir été avec nous, directeur grand compte Europe de l'Ouest chez Barco Clickshare, et c'est le moment de parler de notre business case.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va parler du compte personnel de formation, le CPF. Il y a quasiment un an, le gouvernement lançait en grande pompe le CPF. On était tous extrêmement optimistes sur la formation, une révolution, un big bang dans l'utilisation de ce compte avec de l'argent matérialisé, un compte avec des vrais euros. Ça devait changer complètement le monde de la formation. On va faire un bilan avec Nathanael Wright. Vous êtes le fondateur de Wall Street English. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait une étude sur les Français et la formation et le constat est très clair. Personne ne sait ce que c'est que le CPF ou pas grand monde. 40% des Français ne savent absolument pas ce que c'est.
Exactement. On a demandé à l'Ipsos de faire l'étude pour nous, parce qu'on s'en doutait, mais on n'était pas tout à fait sûr. On voulait avoir quelque chose de solide. Et effectivement, 40% des Français n'ont pas jamais entendu parler du CPF, mais ne savent pas ce que c'est. Et un Français sur six, donc 17% des Français, n'a pas fait les démarches pour préserver les droits précédents, c'est-à-dire les droits DIF, vous venez du DIF, le droit individuel à la formation, qui peut être préservé dans un compte CPF, mais pour cela, il faut les enregistrer.
Il faut faire une toute petite manip, hein. C'est pas grand-chose, on va sur le compte, on fait juste le transfert.
On prend son application, on rentre son numéro de sécurité sociale, on met le nombre d'heures que l'on avait, et on prend en photo la fiche de salaire de décembre 2014 qui indiquait combien d'heures les personnes avaient. Le problème, c'est que les personnes ne savent pas que les droits vont disparaître au 31-12-2020, même si c'est en discussion actuellement dans les différents ministères, puisque c'est quand même très très malvenu de baisser les droits à formation des Français au pire des moments, au moment où la crise arrive, ou du moins la crise annoncée arrive. Avoir des droits pleins en 2024 ou 2025, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Avoir des droits à formation en 2021, en 2022, là, c'est important, du moins si on croit le plan de relance du gouvernement.
Alors, on passe notre temps à expliquer que la formation, l'employabilité est essentielle. Il y a eu le CPF, il y a eu pendant le confinement un énorme Big Bang sur la question de la formation, sur le financement. Ça ne coûte quasiment rien aux entreprises, ça ne coûte quasiment rien aux salariés, et pourtant les Français sont toujours pas au courant de ce que c'est que le compte personnel de formation. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Il faut communiquer. Aujourd'hui, le gouvernement avait prévu de communiquer. Il y a eu deux campagnes de communication qui ont été suspendues du fait du Covid, ça peut se comprendre. À mon avis, ce qu'il faut faire, il faut reporter d'un an la deadline du 31-12-2020 au 31-12-2021.
Pour garder le DIF.
Et parce qu'il y a eu le Covid qui a tout perturbé. Il faut faire les campagnes de communication qui étaient prévues, mais bon, elles étaient prévues, donc a priori. Et surtout, il faut, d'une manière ou d'une autre, inciter ou contraindre les entreprises à communiquer avec leurs propres salariés pour les informer des démarches qu'elles doivent faire. C'est effectivement très simple à faire, mais si vous ne savez pas qu'il faut le faire, vous ne le faites pas.
Et vous avez l'impression que les DRH ne jouent pas le jeu ?
Absolument. Et c'est d'autant plus incompréhensible que depuis septembre, les entreprises peuvent abonder sur le compte CPF des salariés en vue d'une formation commune. Autrement dit, les entreprises ont tout intérêt à ce que les salariés aient un maximum d'argent sur leur compte. Et donc, pour moi, c'est quasiment une faute professionnelle d'un département des ressources humaines de laisser s'évaporer 1 800 euros des comptes des salariés dont ils pourraient avoir besoin.
Vous vendez des formations d'anglais, hein, bien sûr. Vous avez transformé votre manière totalement de fournir ces formations. Vous avez arrêté le présentiel. Comment ça fonctionne aujourd'hui au Wall Street Institute ?
En fait, on a eu de la chance d'avoir un réseau mondial qui a été affecté en Chine avant la France. Donc, le réseau avait réagi avec une méthode online pour répondre aux besoins chinois, et donc on l'a eu de disponible une semaine plus tard. Aujourd'hui, avec la réouverture des centres, puisqu'on n'est pas encore reconfiné, avec la réouverture des centres, on est capable de faire les deux. C'est-à-dire que le stagiaire peut à tout moment décider de faire son cours avec professeur online ou de le faire dans les centres. Alors, nous pensons que c'est beaucoup mieux dans les centres, mais vous avez un appel qui vous dit que vous avez une réunion qui va commencer dans 20 minutes, vous ne pouvez pas aller dans votre centre, vous programmez votre cours online pour 10h du soir et vous le prenez à 10h du soir.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est totalement flexible.
Bah oui.
En fonction de votre emploi du temps.
Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas faire de cours d'anglais aujourd'hui. La problématique de l'emploi du temps n'en est plus une. Après, vous prenez une méthode qui a des résultats. La nôtre a des résultats garantis par contrat. Bon, il suffit de faire les heures.
Les Français sont toujours aussi nuls en anglais ?
Selon le sondage que l'on a fait, les Français sont considérés à 55% mauvais, voire nuls en anglais. 55%, ça fait beaucoup.
C'est pas si mal, j'ai envie de dire. Ça pourrait être pire.
Oui, parce que j'ai pas dit mauvais. J'ai oublié de dire que c'était pas mauvais, c'était très mauvais ou nul.
Est-ce que c'est toujours un frein pour la carrière ? Est-ce que c'est toujours difficile quand on ne parle pas anglais ? Ou finalement, aujourd'hui, avec les outils de traduction, on se débrouille
Alors, là, c'est un point intéressant. On a posé la question. Et très souvent, on nous dit, notamment au niveau de Pôle emploi, qui a des budgets de formation pour les demandeurs d'emploi, très souvent, on nous dit l'anglais, c'est pas important. Quand on vous forme à l'anglais, on ne vous forme pas à un job. Et donc, vous ne pouvez pas retrouver un job avec l'anglais. Oui, mais nous, on a posé la question, on a dit, combien d'entre vous a raté une opportunité, a raté un job parce qu'il n'avait pas le niveau d'anglais ? Donc, on a retourné la question. Et là, on se rend compte qu'un tiers des Français nous disent avoir raté un job uniquement à cause de l'anglais. Il n'y a pas d'autre sujet de formation en France qui arrive à un tel effet sur l'emploi. On parle que de l'anglais, un tiers des postes
Avec parfois peut-être de l'autocensure, parce que le français, contrairement à l'espagnol ou l'italien, préfère ne pas parler que de baragouiner.
Alors, on a également posé la question.
Ouais.
Et 25% des Français ne se présentent même pas. Dès qu'on voit qu'il y a, besoin d'anglais, ils n'y vont même pas. Donc, ils ont peut-être les meilleures compétences techniques pour le job, mais ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas l'anglais. Donc, entre 25% des personnes qui n'y vont pas et 33% des personnes qui y vont et qui ratent l'occasion, ça commence à faire beaucoup pour une seule matière.
Merci beaucoup, Nathaniel Wright, d'avoir été avec nous, fondateur de Wall Street English. On va continuer. Non, on ne va pas continuer. C'est la fin de cette émission, donc on ne va pas continuer. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business. Et par pitié, faites-nous plaisir, allez voir votre CPF. C'est facile. Vraiment, il faut juste votre numéro de sécu. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à très bientôt sur Happy Boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.